Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la maison du bâtisseur. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Je peux demander à l'Église de lever sa voix. La Bible dit que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et quand on voit un certain nombre de problèmes qui surviennent dans la vie des uns et des autres, on se rend compte que l'ennemi est toujours là et qu'il travaille. Je me rends compte aussi qu'il y a des actes qui ont été posés et qui ont ouvert des brèches à l'adversaire. Malédiction, des oppressions, des blocages de toutes sortes. Mais la parole de Dieu déclare que nous sommes bénis en Christ, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Seigneur également déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, Église de Christ, avec autorité d'un commun accord, nous allons élever nos voix. Et tu vas dire dans ta prière, au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction maléfique héritée ou créée ou causée par un quelconque acte dans ma vie au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant à l'existence toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur a prévues pour moi au nom de Jésus. Je stoppe tout plan de Satan contre ma vie en cette saison au nom puissant de Jésus. Je libère la faveur sur ma vie, je libère la faveur sur ma famille, je libère la faveur sur mon église au nom de Jésus. Et toute arme forgée contre moi, sur mon frère ou sur ma soeur, sont nulles et sans effet. Toute arme forgée sur la maison du bâtisseur sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, alors élevons nos voix et décrétons maintenant, au nom de Jésus-Christ, Mandelebos Takata. Reste que te yababaha, roste que maha de rebosta, ricota yaba, recota yabaha de rebosta, risto cota yaba, roma de reboste que te, racata reboste que te, rocata rebroste cataraba, rende rebaba, ruste que te yaba, roma de rebosta. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre ton église sont nulles et sans effet. Toute arme forgée contre tes enfants sont nulles et sans effet. Je sanctifie les fondations de ton œuvre et je libère la faveur sur tes brebis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas maintenant élever la voix avec moi et tu vas déclarer au nom de Jésus, j'ordonne à tout homme fort, attaché encore à ma vie, attaché à mes fondations spirituelles, attaché à mes finances, tout homme fort qui s'est introduit dans ma vie, maintenant je le lis au nom de Jésus et je suis complètement libéré. À partir de maintenant, j'expérimente les grâces, les faveurs et toutes les bénédictions que le Seigneur a pour moi. Et tout homme fort, c'est-à-dire tout esprit mauvais dans mon foyer, dans mon mariage, sur mes finances, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il s'en aille, je le renverse et je le déloge. Au nom puissant de Jésus, élève la voix. Makete yebos, yekata na baba, rokate yebaba, rekete. Tout homme fort est délogé. Makete yebos, yekete yebakata, yestaka. Yeah, bye.
Jésus.
Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons élever nos voix d'un commun accord et nous allons décréter et déclarer et ordonner toute plantation satanique, maléfique, déposée dans nos vies, déposée dans la vie de mon frère ou de ma soeur par la sorcellerie, le fétiche ou quoi que ce soit. Nous allons décréter que dans cette église, s'il y a encore une racine ou une plante attachée à la sorcellerie, qu'elle soit maintenant déracinée et que tous ceux qui souffrent de ces choses soient complètement libérés. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, Kateremos, Kateye, Romaka. Je viens contre tout esprit démoniaque attaché à cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les fondations, je détruis tout fondement. Au nom puissant de Jésus, ma corée bâchée, corra baba baba andere bâchée. Attachée à cette œuvre, ensorcelée ou qui a été empoisonnée par un quelconque enchantement, soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons et nous renversons toute forme de forteresse au nom puissant de Jésus, érigée autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas élever la voix avec moi maintenant et tu vas dire au nom de Jésus, toutes les forteresses que Satan a érigées autour de moi dans ma vie afin de m'empêcher de me déployer, au nom de Jésus, je renverse ces forteresses et je déclare et je décrète que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, étend mes limites, il me déploie, il élargit l'espace de ma tente. Toutes les forteresses sataniques qui ont été bâtis afin de m'étouffer, afin de m'empêcher de prospérer, afin de m'empêcher de vivre et de prier, je renverse ces forteresses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, élève avec moi la voix. Étends mes limites. Yes. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Seigneur, étends tes limites au nom de Jésus. Tu te déploies
Tu as fermé tes yeux. Tu élargis l'espace de ta tente. Tu vois plus loin. Tu vas plus loin. Tu rêves encore plus grand. Je déclare et je décrète qu'en cette saison, les gens seront dans l'étonnement quand ils verront la faveur de Dieu être déployée dans ta vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu étend tes limites au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur bien fort? Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci encore pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Certainement tu la rends parfaite. Merci encore pour ta parole que tu inspires. Merci Saint-Esprit, je suis à ta disposition. Nourris encore ton peuple, parle à ton peuple et glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise gloire à Dieu et acclame encore le Seigneur bien fort. Amen. Amen. En t'asseyant, je voudrais que tu dises au moins à deux personnes, Excellence, bienvenue à la maison du Seigneur, bienvenue à l'ambassade, bienvenue à l'église. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Maintenant, prenons notre Bible. Deux Rois, au chapitre 24. Je vais atterrir sur ce premier volet. Je suis en train de demander au Seigneur s'il veut qu'on continue. S'il veut qu'on continue, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, je vais toucher un sujet très particulier et très important. On va lire Deux Rois au chapitre 24. À partir du verset 10, nous lisons. C'est à cette époque que les serviteurs Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. Et la ville fut en état de siège. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs en faisaient siège. Alors, Joachim, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était la 8e année de son règne. Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que ceux du palais royal. Il brisa tous les ustensiles en or que Salomon, le roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Cela se passa comme l'Éternel l'avait annoncé. Il emmena en exil tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Il y eut 10 000 exilés avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que les pauvres du pays. Dites-moi, il ne resta que les pauvres du pays. Ça, il ne resta que les pauvres du pays. Nous sommes toujours sur notre série concernant la révélation du royaume et nous restons sur notre chapitre sur l'importance sur le combat pour pouvoir libérer notre potentiel. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes sur le mystère de la sagesse et sur cette lancée concernant le mystère de la sagesse. Aujourd'hui, je vais parler de briser l'esprit de pauvreté. Dis avec moi, briser l'esprit de pauvreté. Briser l'esprit de pauvreté. En voilà un sujet. Le texte que nous venons de lire est un texte assez intéressant. Et dans la version de la Bible français courant, la dernière phrase est traduite un peu autrement. Elle est traduite « Il ne laissa sur place que les habitants les plus pauvres. » Alors, cette phrase m'a intrigué. Voilà un roi, le roi de Babylone, qui vient faire un état de siège sur Israël et qui siège la ville, fait prisonnier le roi, ses serviteurs et tout le peuple. Le gars, il emmène tout le monde. Tout le monde part à Babylone. Tout le monde est de la partie. Tout le monde est du voyage, sauf les pauvres. Attention, il ne dit pas les pauvres, il dit les plus pauvres. Parce que quand tu étudies le sujet de la pauvreté au regard de la Bible, tu te rends compte que la Bible classifie la pauvreté à trois niveaux. Dis avec moi trois. La Bible te parle des pauvres, la Bible te parle des très pauvres et la Bible te parle des plus pauvres. Et les plus pauvres, ce sont ceux qui sont pauvres de chez pauvres de chez pauvres. Nebuchadnezzar est un roi. Il arrive Il se dit, je vais emmener tout le monde en esclavage. Et il regarde une partie de la population. Ils sont les gens les plus pauvres. Et il dit, cela, j'en veux pas. Voilà la condition de celui qui est très pauvre. On n'en veut pas. Même les plus grands rois, même pour te prendre en esclavage, il ne veut pas. Force. Hein? Même en tant qu'esclave, il ne veut pas de toi. Et c'est assez intéressant. Briser l'esprit de pauvreté. Dis avec moi, briser l'esprit de pauvreté. Dans un autre passage de la Bible, au livre des Proverbes, au chapitre 22, au verset 22, regarde ce que Salomon dit à ce sujet. C'est assez, ça fait un peu sourire, c'est un peu triste à la fois, mais ça fait un peu sourire. Salomon dit, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Il n'opprime pas le malheureux à la porte de la ville. Ne dépouille pas le pauvre. Il n'a rien. Comment tu veux dépouiller quelqu'un qui n'a rien? Mais dépouiller quelqu'un qui n'a rien, oh, mais c'est trop méchant, quoi. C'est-à-dire voler quelqu'un qui est déjà pauvre, c'est... Il n'y a rien de plus méchant. Il faut être Satan en personne pour faire ça. Et en fait, j'étais en train de méditer cette semaine. Le Seigneur m'a dit, traite de ça. Touche ça. Touche ça. Quand tu vas toucher ça, c'est comme si tu touches une plaie qui est ouverte. Quand tu touches une plaie qui est ouverte, ça fait un peu mal. Hein? Et en fait, pourquoi je vais aborder ce sujet aujourd'hui? Je vais aborder ce sujet aujourd'hui parce que je hais la pauvreté. Et parce que je hais la pauvreté, je vais te bousculer pour que toi aussi tu haïsses la pauvreté. Moi, je hais la pauvreté. Et encore, je hais la pauvreté. Secoue le plafond. Qu'on t'entende jusqu'à la rue là-bas. Que jusqu'au centre-ville, on t'entende, dis-le. Je hais la pauvreté. Ça me... C'est un microbe, je hais ça. Je hais ça parce que Dieu est la pauvreté. Problème que le Seigneur a avec nous, l'Église, nous, ses enfants, c'est que aujourd'hui, face à la pauvreté, on est devenu totalement indifférent. On voit les autres souffrir et ça ne nous fait rien. Et déjà, je haïssais la pauvreté. Et ces dernières semaines, comme j'ai beaucoup voyagé et que j'ai eu la grâce d'aller à l'intérieur du pays, j'ai vu un niveau de pauvreté beaucoup plus élevé qu'ici. Donc quand j'ai vu ça, ça a augmenté mon niveau de haine contre la pauvreté. J'ai dit, mais mon Dieu, comment on peut vivre dans des conditions pareilles? Je hais la pauvreté. Et quelqu'un un jour s'est levé et a décidé d'en faire toute sa vie. Elle s'appelait Mère Teresa. Elle était professeure dans une école. Elle vivait dans un pays où il y avait énormément de pauvreté jusqu'au jour où elle a craqué. Elle a dit, je vais faire la pauvreté un combat. Je vais me battre et je vais livrer un véritable combat contre l'esprit de pauvreté. Parce que s'il y a bien un esprit satanique qui détruit les destinées, c'est l'esprit de la pauvreté. Et tu vas te rendre compte, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent, beaucoup de gens pensent que la pauvreté se limite juste à une condition physique. La pauvreté, c'est bien plus qu'une condition physique, c'est un état d'esprit. Hein? C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit de la pauvreté, il est ancré chez les Gabonais. Pire, il est ancré dans l'Église. Tout au long de ces semaines, on a parlé des différents piliers du processus divin vers la création de richesses. Et le dernier pilier, c'était dépenser son argent intelligemment, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis dit, alors je vais toucher cet aspect-là en parlant de ça. Parce qu'en fait, bien que tu travailles et que tu aies de l'argent entre les mains, tu n'arrives pas à prospérer, à jouir de ton argent. Souvent, dans l'Église, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens. Parce qu'ils ont l'esprit de pauvreté. Donc, on peut parler de prospérité, on peut enseigner beaucoup de belles choses, mais ils ne prospèrent pas dans leur vie parce que tout simplement, l'esprit de pauvreté est attaché à leur vie. Tu vas comprendre. Quoi. Mais avant de donner les solutions, je vais d'abord faire un état de la situation, un état des lieux. Hein? Moi, je hais la pauvreté. Et nous allons briser l'esprit de pauvreté. Si l'esprit de pauvreté est présent dans l'Église, pourquoi on ne traite pas de ça? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi les gens ont des problèmes d'argent dans l'Église et les pasteurs n'en parlent pas? On vient nous bombarder des enseignements de toutes sortes, le Saint-Esprit, ceci, Jésus-Christ est mort à la croix. Et alors? Jésus est mort à la croix depuis 2000 ans. Il est mort, il a tout accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. Mais si tout est accompli, pourquoi on souffre comme ça? On souffre comme ça parce qu'autour de nous, il y a une réalité. Une réalité qui est là. Et on doit traiter de ça. Le problème qu'on a avec les chrétiens, c'est que quand on vient, et c'est un peu ça le problème avec le pauvre, c'est que le pauvre, il est tellement aveuglé et tellement convaincu que sa pauvreté, c'est une bonne chose, que lorsque tu viens avec la solution, le faire sortir de sa pauvreté, c'est même lui qui te combat directement. C'est comme ça que nous, les pasteurs que nous sommes, dès qu'on touche le sujet, on se fait fusiller tout de suite, partout où on va, dans les médias, sur Internet, et pasteur de ceci, pasteur de ceci, mais tu vois pas, tu constates pas les problèmes autour de toi. Et puis on a tendance à croire, parce qu'ils sont ignorants en plus, on a tendance à croire que la Bible ne traite pas de ces sujets, mais la Bible traite de ça. La Bible en parle bien même, et elle donne des solutions pour sortir de là. Et moi, je vais à la pauvreté. Et ce que je veux, c'est provoquer un shift dans ta tête, de sorte que non seulement tu vas refuser la pauvreté dans ta vie, tu vas t'engager à prospérer dans ta vie, et tu vas aussi t'engager, une fois que tu seras prospère, à prendre soin des pauvres. Parce que c'est pour ça que Dieu t'a suscité. Ainsi, quand tu seras face à l'esprit de pauvreté, tu ne seras plus indifférent. Tu seras plus indifférent. Parce que tu es ça. Chaque fois que tu seras confronté à ça, tu vas régler le problème. Parce que tu peux ressentir, imaginer ce que ça peut être d'être dans la pauvreté pour quelqu'un. Tu vas ressentir ce que c'est que d'être dans le manque à la place de cette personne. Tu vas lui donner. Alléluia. Donc, ces cinq piliers, nous les avons traités et je vais toucher le dernier pilier rapidement sur la base de ce sujet-là. Dépenser intelligemment son argent et vaincre l'esprit de pauvreté. La pauvreté, il faut d'abord la comprendre. D'abord comprendre ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté, si on peut lui donner une définition, c'est l'état ou la condition de ne pas avoir ou peu d'argent et ne pas posséder les ressources matérielles suffisantes pour vivre dignement. Amen. La pauvreté, c'est l'absence de tout ce qui peut rendre la vie d'une personne confortable et agréable. La pauvreté, c'est plus une personne est pauvre, plus l'impact de sa pauvreté sera grand dans sa vie et dans celle de sa descendance. Et moi, je vais à la pauvreté. Quand quelqu'un est pauvre, quand quelqu'un est dans le manque, non seulement cet état de manque l'affecte lui, mais ça affecte tous les siens. Et quand vous prenez quelqu'un qui grandit dans un environnement agréable et confortable, aisé, regardez ses enfants et comparez-les aux enfants d'un pauvre. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est pauvre ne peut pas être heureux. Alors, il y a des gens qui pensent que dans la pauvreté, on peut être heureux. Tu peux avoir le sourire, mais derrière ce sourire, il y a une souffrance qui est là. Donc, la pauvreté affecte non seulement ton état physique, mais elle affecte aussi ton mental, ton état d'esprit. La pauvreté est un esprit, un état spirituel qui ne peut être brisé que par l'intervention de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et par l'application de la sagesse contenue dans sa parole. Donc, cet esprit-là, il faut le briser, il faut le chasser. Un pasteur peut venir annoncer toutes les paroles qu'il veut. Si l'esprit de pauvreté est assis dans l'église, l'église ne peut pas prospérer. Il faut que l'église accepte d'embrasser la dimension d'abondance et de richesse. Si l'église n'embrasse pas ça, elle ne peut pas opérer dans cette dimension. Et l'esprit de pauvreté restera assis dans l'église. Alléluia. Car quand tu étudies le sujet de la pauvreté, tu te rends compte que c'est un sujet qui ne se limite pas seulement à l'argent. Car les gens, quand on parle de richesse ou de pauvreté, ils ont toujours à l'esprit l'argent. Mais Dieu n'en a rien à faire de l'argent. Car dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que l'argent. Et le problème, c'est que quand tu es pauvre, tu ne peux pas posséder certaines choses qui te reviennent de droit. C'est pour cela que Dieu est la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Pasteur, tu es en train de dire que quand j'expérimente le manque, ça veut dire que je suis maudit? Non, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Ça veut dire que c'est une malédiction. Ça ne veut pas dire que toi, tu es maudit. Tu peux attirer la malédiction sur toi si tu pêches. Mais dès le moment où, alors que tu marches avec le Seigneur, tu crains le Seigneur, mais dès le moment où tu expérimentes le manque, tu dois avoir une haine qui monte d'un coup. Tu lui as dit, ça là, ça, je hais ça. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, être confortable avec le manque. Il faut refuser ça. Parce que faut bien interpréter le verset de Paul. Je me contente de ce que j'ai. Je me complais dans l'abondance comme dans la disette. Ça ne veut pas dire qu'il aimait rester dedans. Ça veut dire qu'il a accepté pour un temps. Parce que Dieu voulait qu'il passe par là. Mais il sortait de la vie. Le pauvre, par contre, c'est celui qui est dans la disette, dans le manque et qui est content d'être dedans. C'est-à-dire qu'il arrive dans un état de léthargie mentale où il ne se rend même plus compte qu'il est dans la pauvreté. C'est là que Dieu a un problème. Alléluia. La pauvreté est une malédiction. Et pour en finir avec une malédiction, il faut la briser avec l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 10 au verset 27 dit « Ce jour-là, le fardeau qui le faisait peser sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée. » Brisée, elle laissera place à la bénédiction. Car c'est un fardeau. Et quand on a identifié ce fardeau, quand on a identifié cette domination-là sur l'Église, il faut venir avec la parole de Dieu, onctionner du Saint-Esprit et briser. Car si tu ne fais pas ce travail, les gens vont se complaire, vont rester dedans. Alléluia. Dis que moi, je hais la pauvreté. La pauvreté, non seulement c'est une malédiction, mais il faut aussi savoir que c'était la première phrase que le Seigneur Jésus-Christ en personne est venu annoncer quand il a démarré son ministère. Il a pris comme référence le passage d'Ésaïe 61 lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter bonne nouvelle aux malheureux. » Et dans Luc, il traduit en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est « Je suis venu te sortir de là. » Et quand on dit les pauvres, on ne parle pas seulement des pauvres en esprit. On parle aussi de la pauvreté en tant que telle. Alors, l'évangile touche tous les aspects de notre vie, pas seulement l'aspect spirituel. Quand l'évangile de la croix entre dans la vie d'une personne, cet évangile opère une délivrance tous les niveaux, au niveau spirituel, dans le monde de l'esprit, mais aussi au niveau physique, au niveau de tes finances, au niveau de ton mariage, à tous les niveaux. C'est une chirurgie qui se fait dans tous les domaines de ta vie. Et il faut refuser cet évangile-là, ces chrétiens-là qui pensent, qui disent que non, l'évangile c'est juste les choses de l'esprit. Ouais, voilà, les apôtres n'ont jamais parlé de pauvreté, de richesse, tout ça, tout ça. Les apôtres étaient seulement là, repentez-vous, repentez-vous. T'as rien compris à la Bible. T'as rien compris. Ça, c'est quel papa bon Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants pauvres. Tu as vu ça où? La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Ben, les apôtres, ils étaient en leur temps. Nous, on a plus de connaissances qu'eux. Tu as vu dans la Bible, Pierre prêchait comme moi. Moi, je prêche mieux que Pierre. Attends. Bon, c'est vrai, il m'a battu. Il a fait 3000 convertis en une journée. J'en suis pas encore là, mais... Hein? Tu as vu ça où? Est-ce que tu as vu aujourd'hui les rassemblements que Chris Oyakhilome te fait au Nigeria, que Renard Bonquet te fait au Nigeria? Tu as vu ça? Tu as vu Pierre faire ça? Non, oh, Renard Bonquet, il est exceptionnel. Même Jean a menti. Attends, dans les derniers temps, nous, c'est plus pareil. Eux, ils étaient au début. On a beaucoup progressé. Je taquine un peu, hein? Donc, nous sommes oints pour briser l'esprit de pauvreté. C'est notre onction. Dieu nous a donné ça. Alors, brisons cet esprit par la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais te dire 10 choses à savoir au sujet de la pauvreté. Très rapidement. Après, je vais atterrir. Premièrement, c'est que la pauvreté est une conséquence de la désobéissance aux lois de Dieu. Donc, quelqu'un peut attirer la pauvreté sur lui. Quelqu'un peut provoquer le manque dans sa vie lorsqu'il se met à désobéir à la parole. D'accord ? Deux, la pauvreté, c'est produire la richesse pour un pays, mais seuls les riches vont en profiter. On peut dire que notre pays est très riche. On peut dire que notre pays a beaucoup de ressources naturelles. Notre pays a le pétrole et ceci et cela. Mais si cette richesse ne profite qu'à une infime partie de la population, nous sommes une nation extrêmement pauvre. Même si publiquement, les gens ne veulent pas le reconnaître. Car la richesse, ce n'est pas les matières premières que nous avons juste dans le sol. C'est un état d'esprit national. Si au niveau national, nous ne comprenons pas que tous les Gabonais doivent profiter de la richesse du pays, alors nous sommes pauvres. C'est pour cela que Dieu dit à une des églises dans Apocalypse, tu penses que tu es riche, mais en fait tu es pauvre. Tu penses que tu es vêtu, mais en fait tu es nu. Tu ne t'en rends même pas compte. C'est pas ce qu'il dit à l'église de Philadelphie ou de Laodicée, je crois. Tu penses que tu es riche, mais en fait tu es pauvre. pauvreté amène les gens à ne posséder que des biens d'occasion abandonnés par les riches. C'est pour ça qu'il faut refuser les occasions. Ah, mais sérieux, est-ce que tu as vu un riche dire qu'il va acheter quelque chose d'occasion? Là, je te bouscule un peu. Quand tu vas voir quelqu'un, il ne faut pas aimer les choses d'occasion. Tu sais, c'est quoi les choses d'occasion? Quelqu'un a tué ça une fois et puis après, il vient te donner le reste. Non. C'est comme quand tu manges, attends, et puis tu jettes les restes au chien. C'est ce qu'on vient arquer là. Tu vas acheter une télévision. Oh, on va acheter une télé d'occasion. La personne est déjà fatiguée de ça et puis toi, tu viens prendre ça. Ça, c'est pauvre ça. Pas bon. C'est même pas pauvre. C'est pauvre. Regarde ce que Lévitique chapitre 23, 22 dit. Parce que tu penses que je suis en train de plaisanter sérieusement. Regarde, c'est Dieu lui-même qui te dit ça. Tu ne connais pas ce verset. Lévitique 23, 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras. Non, viens, on lit ça ensemble, toi et moi. 1, 2, 3. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu es en train de dire, prends la meilleure partie. Le reste, donne ça aux pauvres. Ce n'est pas pour toi. En d'autres mots, le pauvre, il prend les restes. Il prend ce qui est d'occasion. Riche, il prend ce qui est encore en très bon état, ce qui est neuf. Et riche, dis-le moi, je suis riche. Dis-le encore, je suis riche. Dis-le encore, je suis riche. Regarde celui qui est près de toi et dis-lui, je suis riche. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité. C'est pour cela que la semaine dernière, je vous ai parlé de la différence entre le riche et le pauvre. Ils ne pensent pas de la même manière. Ça, on va toucher ça à partir de la semaine prochaine. On ne pense pas de la même manière. Je t'assure que quand tu vas comprendre ce que je suis en train de dire là, je vous assure, vous allez même vos démarches à l'église vont changer. Parce qu'il y en a trop, vous marchez comme ça. Comme des bossus de Notre-Dame. Non. Quand tu vas comprendre la différence, tu vas marcher comme ça. Tu vas marcher comme ça. Ta manière de parler, ta manière de penser, ta manière de te vêtir, tout va changer. Le pauvre, il prend les restes. 4. La pauvreté empêche une personne de vivre là où elle souhaite et l'oblige à vivre dans un lieu qui ne favorise pas une bonne éducation. C'est pour cela que Salomon dit dans Proverbe 19, verset 4, « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. » C'est-à-dire, on le parque, on ne le met pas là où il y a tout le monde. On se sépare de lui. Les riches, ils vivent dans les beaux quartiers, ce qu'on appelle les beaux quartiers. Vous, on vous parque dans les sociaux. Il faut refuser le social. Prendre ce qui est bon, ce qui est bien. Le riche, parce qu'il ne décide pas où il va, plutôt le pauvre, parce qu'il ne décide pas où il peut vivre. C'est le riche qui décide pour lui où est-ce qu'il va vivre. Comme il n'a pas le pouvoir de parler, il n'en a pas les moyens, c'est le riche qui prend la parole pour lui. Quand vous entendez sommet 2, réunion au sommet 2, ce sont les riches qui se retrouvent pour décider ce qui vous concerne. Mais rassure-toi, ton nom n'est même pas évoqué pendant les réunions. C'est après qu'ils viennent te mentir qu'ils ont évoqué ton cas. Là-bas, ils se partagent tout pour eux. Et toi, on t'a juste oublié. Quand je dis toi, je parle des pauvres. C'est pour cela qu'il faut refuser de faire partie de cette partie de la population. Sinon, on décidera pour toi où est-ce que tu vas vivre demain. Moi, je suis riche. 5. La pauvreté attire la haine sur les autres, des autres plutôt, sur toi. Quand tu es pauvre, les gens ne t'aiment pas. Il dit, pasteur, comment tu peux dire ça? Non, c'est vrai. Quand tu es pauvre, les gens ne t'aiment pas. Oh. Regardez, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire vraiment sourire. J'attends ce soir pour rentrer pour la raconter à la personne à qui elle revient de droit. J'étais à Port-Gentil hier dans le cadre de l'association, dans le cadre de notre rencontre Oser Entreprendre, puisqu'on on avait un branch business là-bas. Et puis j'étais en train de rentrer. J'étais à l'aéroport. J'allais prendre mon avion. Et donc j'étais seul. Et quand j'arrive à la douane, que j'avais donné ma carte d'identité là où on a enregistré les bagages, apparemment ils avaient transmis mon nom. Là où on fait le contrôle de police. Ils ont un très bel aéroport maintenant. Et quand j'arrive au contrôle de police, il y a les deux, je vois tout le monde se lève et puis les deux monsieur se mettent. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Je suis DG de ma propre boîte. Mais là, la manière dont il a dit ça, je pense qu'il ne parlait pas du même directeur général. Il parlait de mon petit frère de l'autre côté, hein, de la caisse table. Et puis. Donc, je ne sais pas, disais, monsieur le directeur général, bienvenue, hein, s'il vous plaît, venez, monsieur, s'il vous plaît. j'étais là, je dis, ah donc ils sont en train de me prendre pour mon petit frère. Bon, je pense qu'il ne m'en voudra pas si je profite un peu de... Donc ils étaient là, monsieur le directeur, je peux enlever la ceinture, oh, c'est pas vraiment utile pour vous, hein. Mais je dis non, je vais enlever, hein, tout ça. Donc ils étaient là, tout votre séjour s'est très très bien passé, oui ça s'est très bien passé, qui m'accompagne jusque là où je passe, je vais m'asseoir, tout ça, et je parle pas, je suis tranquille, je parle pas, mais tu sens qu'il veut taper la discute, mais monsieur le directeur général, votre affaire là, tout ça, j'étais là, oui, effectivement, d'accord, non mais vous avez bien fait, hein. Vous avez vraiment bien fait tout ça, non. Alors, faites pas attention à ce qu'ils disent, hein, monsieur. Non, vraiment, vous faites du bon boulot. Non, franchement, c'est comme ça, j'étais là, ouais. Ouais. Faites du bon boulot. Vraiment, la prochaine fois que vous venez, il faut nous prévenir que vous venez. Comme ça, on va vraiment tout préparer pour vous. J'étais là, j'ai dit, tu vois. Ah, c'est bon, hein, d'être directeur général. Hein. Donc, je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais lui dire, gars, j'ai profité de ton nom. Enfin, j'ai le même nom que toi, mais j'ai profité un peu. Manquez plus qu'il m'amène au restaurant et qu'il me serve du jus à manger et tout ça. Tout ce que je souhaite seulement, c'est que son visage apparaisse dans un journal demain. Et puis, c'est pas le directeur général. Tout ça veut dire quoi? Quand t'es pauvre, on ne prête pas attention à toi. Tu penses qu'on prêtait attention à cause de son nom? Non, parce qu'il a l'argent, le gars. C'est à cause de ça. Regarde ce que Salomon nous dit. Proverbe chapitre 19, verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. On ne s'intéresse pas à toi quand tu es pauvre. Quand tu as l'argent, c'est comme le miel. Tu as l'impression que tout le monde veut se coller à toi. Bah, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il faut maintenant poursuivre l'argent, pas du tout. Mais si Dieu te fait grâce d'en avoir dans ta vie, c'est comme ça que ça se passera. Moi, je suis riche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 6. La pauvreté te rend esclave du riche et te maintient sous sa domination. Parce que Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 22, verset 7, « Le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Tu sais, quand tu lis ce genre de verset, il faut t'arrêter. Parce que ce genre de verset te dit dans la Bible que dans la vie, ne sois pas pauvre. Parce que si tu es pauvre, les riches vont dominer sur toi. Et il dit que le pauvre, il fait partie de la catégorie de ceux qui empruntent. Le riche, il n'emprunte pas, il prête. C'est pour cela que dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit au verset 19, tu prêteras, tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Parce que prêter, c'est une bénédiction, emprunter, c'est une malédiction. Parce que quand tu lis la deuxième partie du chapitre 28, il dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, tu ne seras pas la tête, tes ennemis seront la tête et toi tu seras la queue. Il rajoute en disant, on prendra ta femme et on couchera avec elle sous tes yeux. Après, il rajoute, tu emprunteras. Les nations te prêteront, car tu seras esclave. Je dis, toi, ça c'est méchant, ça, comme malédiction. J'ai pas envie d'être à ce niveau-là, moi. Je vais rester en haut du chapitre. Moi, je vais prêter aux gens. Pas envie d'emprunter. Alléluia. La pauvreté, 7, rend la sagesse inutile et méprisée. Vous me rappelez? Ecclésiastes chapitre 9, 16. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Si tu es pauvre demain, tu ne seras pas écouté. Si tu es pauvre demain, on va te mépriser. Ce que tu diras n'aura pas de poids. Alors il y a une différence quand quelqu'un qui a de l'argent prend la parole et quand quelqu'un qui n'a pas d'argent prend la parole. Il y a une grosse différence. Son argent parle pour lui. 8. La pauvreté rend improductif et inachevé le travail malgré les efforts fournis. Car c'est un esprit. Cet esprit fait en sorte que quand tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à le finir. La malédiction des choses inachevées, quand tu commences, ça ne finit pas. Ça vient de l'esprit de pauvreté. Agé chapitre 1 au verset 5, Dieu dit, mais vous ne voyez pas que vous êtes maudits? Si parle l'Éternel des armées, regarde ce qu'il dit. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille du 1er au 31 tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous êtes maudits. Et là, il leur parlait, quand tu rentres dans le contexte du texte, les gens se préoccupaient plus de leur maison et ne se préoccupaient pas du temple de l'Éternel. Et les gens, parce qu'ils ne s'occupaient pas du temple de l'Éternel, eh bien, leur vie ne prospérait pas. Là, le prophète Agé vient leur parler en disant, mais ouvrez les yeux, vous ne voyez pas que vous êtes maudits. Vous faites plein de choses dans la vie, ça n'aboutit jamais. Et vous êtes maudits, réveillez-vous. Ça, c'est le genre de discours qu'il faut tenir à certaines personnes dans notre pays. Mais réveillez-vous, vous ne voyez pas que vous êtes maudits. Les choses commencent, ça ne finit pas. Vous commencez, vous arrivez à achever. Vous faites des efforts et vous dépensez beaucoup d'argent, ça ne finit jamais. Vous êtes maudits. L'esprit de pauvreté plane sur vous. Ce ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il nous dit encore en 9. La pauvreté te pousse à faire des choses, ça j'aime bien. Te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas. À travailler dans un lieu que tu n'aimes pas. À recevoir un salaire que tu n'aimes pas. Voir à travailler avec des gens aussi que tu n'aimes pas. Parce que tu es obligé de faire ce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas toi qui choisis ton travail, c'est lui qui te choisit. Tu ne choisis pas ton salaire, on t'impose. Tu es obligé de prendre parce que tu es pauvre. Rappelle-toi, on est toujours dans la phase de constat. Je n'ai pas encore commencé à donner des solutions. Alléluia. 10. La pauvreté est un homme fort, démoniaque, un esprit mauvais qui a accès à ta vie et te maintient dans le manque permanent. Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 11, verset 21, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. » L'esprit de pauvreté, il est comme ça. Quand il est assis dans ta vie, il va tout faire pour que tu restes dans cet état de manque, pour que tu lui appartiennes toujours. C'est pour cela que quand tu as un pasteur qui commence à se lever pour délivrer les gens de la pauvreté, il est automatiquement combattu par cet esprit. Pauvreté. L'homme fort, il faut le briser, il faut le lier, il faut le déloger et il faut le mettre dehors. Ce que tu vas attaquer en premier, c'est pas le portefeuille des gens. Non, ce que tu vas attaquer en premier, c'est l'état d'esprit des gens. C'est leur manière de penser et de percevoir le monde autour d'eux. C'est ça que tu vas d'abord toucher. Parce qu'il faut que les gens changent de mentalité. Car la pauvreté, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Les gens ont une manière de penser et de voir le monde autour d'eux. Et ça, ça doit changer. Alléluia. Et avec moi, je hais la pauvreté. Ah, très important ça. Maintenant, je vais te poser 3 questions et puis on va atterrir. La première question que je te pose au sujet de l'esprit de pauvreté, c'est comment identifier les symptômes de l'esprit de pauvreté dans la vie d'une personne? Comment... Pasteur, j'ai compris tout ce que tu as dit. Maintenant, je ne sais plus trop si moi j'ai l'esprit de pauvreté dans ma vie ou pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des symptômes, des attitudes? Il faut que je sache. Est-ce que je suis pauvre ou je ne suis pas pauvre? Pose la question à celui qui est près de toi. Est-ce que tu es pauvre ou pas? Près de lui, attention, moi je hais la pauvreté. Donc si tu es pauvre, je vais te délivrer tout de suite là. Comment identifier les symptômes? Je dis bien les symptômes. Les symptômes, ce sont les signes apparents qu'il y a une maladie cachée quelque part. Donc là, on va commencer à faire un petit check-up. Le premier signe de la pauvreté, c'est la paresse. Dites-moi la paresse. Dites-moi. La paresse. Ah, la paresse est une grande porte ouverte à l'esprit de pauvreté. La paresse, c'est l'incapacité physique et une léthargie mentale envers le travail et tout ce qui peut changer la situation financière d'une personne. La paresse. Proverbe chapitre 6 au verset 11, Salomon nous dit, va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, dis avec moi paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Paresse. De manière pratique, dormir trop, c'est être paresseux. Le pasteur dit, son de minuit, ding ding, prier. Oh, moi je suis fatigué, je vais dormir. Paresseux. 4h du matin, il faut te relever. Non, le drap c'est trop bon, j'aime trop dormir. Et puis quand on t'appelle, toi tu es là, il est quelle heure? Il n'est pas 6h du matin? Non, il est midi. Oh, il est midi, paresseux. Dors trop. Voilà. J'étais motivé, il faut que j'aille à la prière. Et dès que tu sors du travail, il est 17h30, tu as encore le temps d'arriver à l'église. Oh, je suis fatigué, j'entre à la maison. Paresseux. Au lieu d'être là où il y a les vraies choses, toi tu peux faire rentrer à la maison. Et quand tu arrives à la maison, oh, le bac commencé, c'est la crâne. Quand il faut aller travailler, au boulot, pendant que tout le monde est en train de travailler, toi tu es toujours là, en train de faire autre chose. Tu ne veux pas travailler. Paresseux. Le paresseux, la Bible dit, sans être prophète, qu'il finira pauvre. Ouais. Si tu es paresseux dans la vie, réveille-toi. Tu risques de finir très pauvre. Alléluia. Le deuxième signe, c'est l'addiction à la gloutonnerie ou encore la gourmandise et à l'alcool. La gloutonnerie, dis-moi la gloutonnerie. La gloutonnerie, au cas où tu trouves que c'est trop français pour toi, c'est manger beaucoup. Tu aimes trop manger. Tu aimes trop t'aller. Au lieu de manger de manière équilibrée et modérée, toi tu te goinfres. Dès qu'on dit, nous allons manger, tu es le premier à aller dans la cuisine. Tu fais des gros plats comme ça et puis tous tes frères font toujours, oh tu vas finir ça, oui je vais finir. Et tu finis en plus. Hein? Glouton. Tu mélanges tout. Arôme, magie, piment, tout l'huile, tout tes petits... Glouton. Tu ne te poses même pas de questions que tout l'huile, tout le sel là, ça peut attirer le diabète. Tu m'en fous, je mange. Glouton. Voilà maintenant avec le ventre qui sort maintenant. Ceux qui mangent trop, c'est un signe de pauvreté. Alors riche, si tu vas... Il y a des endroits où les pauvres mangent et des endroits où les riches mangent. Quand tu vas là où les pauvres mangent... C'est pour ça que moi, je ne mange plus dans les trucs qui sont au bord de route, les maquis, les cafettes, là. Je ne mange plus dedans. C'est mauvais, c'est pas bon, c'est gras, c'est délicieux. Bon frère, tu veux quoi? Comme c'est pas un Gabonais en général, tu veux quoi? Bon, je veux 1500 de bananes, 4 brochettes bien huilées là, oui. Je veux ensuite 3 portions de riz et puis tu vois, il te met, tu vois comment il te prend ça? Il ouvre un truc en plastique, il prend le bol, tu l'as, il mange et puis il met dans le papier aluminium, ça sèche, ça fait 2500. Te voilà, tu prends, te voilà. C'est ça que tu vas manger, te voilà. Glouton. Parce que le riche, quand il va manger au restaurant, c'est équilibré, c'est fin, c'est raffiné, pas beaucoup, pas de sel, pas de sucre, parce qu'il fait attention à sa santé, s'il te plaît. D'accord? Il ne demande pas les jus pop, super sucrés, qui ne sont pas bons. Il demande l'eau Perrier ou bien, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il vit plus longtemps. Toi, à 40 ans, tu meurs de, je ne sais pas. Ton temps avec quelqu'un, il dit, il ne faut pas être glouton, mon ami. Puis arrête de manger dans les cafettes là. Dis-lui, arrête de manger dans les cafettes là. C'est pour ça que quand on t'appelle, mais tu n'étais pas à l'église aujourd'hui, donc tu étais où? Ah, oh, j'avais des maux de ventre là, parce que tu manges trop là-bas. Manger trop les mauvaises choses là. Et encore l'alcool. Ceux qui aiment boire. Là, vous êtes là, vous aimez boire la bière. Buvez, vous vous cachez là, vous buvez, on vous connaît. On vous connaît. Oh, est-ce qu'un chrétien a le droit de boire l'alcool? Comme c'est pas écrit dans la Bible, on a le droit. Te voilà maintenant assis dans les maquis, là, dans les beuveries avec les potes. Oh, regarde, une autre. L'alcool, c'est un symptôme de la pauvreté. Car le riche, il fait attention à sa santé. Il va peut-être se contenter de prendre du vin, grandes occasions du champagne. Hein? Il y a des alcools qu'il ne prend pas. Parce que l'alcool qui est fait par notre société de sobrage, je ne dis pas le reste, leur alcool, là, c'est pas... bizarre. Est-ce que tu n'as pas remarqué que les gens qui consomment le plus leur alcool, c'est les pauvres. Et en général, comme ils savent que le pauvre, quand il prend la bouteille, il ne regarde jamais ce qui est écrit derrière la bouteille. Pour savoir ce qu'il y a dedans, il boit seulement. Le riche, quand il achète en magasin, il est là, il regarde ce qu'il y a dedans. Quand il y a certains trucs dedans, il dit, je ne prends pas ça. Le pauvre, il regarde. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans la rigueur. Si c'est le sang du cochon, je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu prends seulement, tu bois. Je n'ai jamais vu ça. L'odeur déjà m'énerve. Tellement ça sent mauvais, ça sent pas bon. Castel, c'est pas bon. Pourquoi vous buvez ça? Oh, mais pasteur, qui t'a dit qu'on boit ça? Vous buvez ça. Arrêtez de boire ça. C'est un symptôme de la pauvreté. Hein? Donc, quand l'esprit de pauvreté influence une personne, elle a tendance à dépenser son argent dans la gloutonnerie et l'alcool. L'esprit de pauvreté te rend esclave de la consommation sans limite de ces mauvaises choses-là. Salomon dit, Proverbe 23, verset 21, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès. Ou bien SSI. Non, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. L'assoupissement fait porter des haillons.
Tu sais ce qu'on les a eu? C'est quand tu es bourré là et puis tu te réveilles avec la gueule de bois, avec le gros truc ici là. Il est quelle heure? C'est ça les haillons. Quand vous venez tous de boîte de nuit là, avec des yeux comme ça, Dieu dit que ça, c'est un symptôme de la pauvreté. Vivement que ce soit enregistré et que ça passe à la télévision et ces trucs-là. Vraiment, vraiment. On va parler de bonnet là. C'est quand tu vas dans les maquis, ils sont pleins là-bas. Et puis on dit, nous avons une grande destinée, notre pays. Voici notre destinée. Oh, ma katayebosta. Mais Dieu t'a point pour aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors que Jésus-Christ et Jean-Baptiste étaient, repentez-vous. Toi, tu vas aller dans les maquis, tu vas dire, arrêtez de boire. Et sortez de là, au nom de Jésus. Galates, chapitre 5, au verset 21. Regarde ce qui est écrit. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part dans l'héritage du royaume de Dieu. Donc chaque fois que tu verras une régale devant toi et que tu bois ça, Dieu dit, tu n'as pas de part dans l'héritage du royaume. Chez nous, au ciel, on ne veut pas les colos. Troisième symptôme, c'est l'ignorance des vérités bibliques. C'est celui qui ne connaît rien à ce qui est écrit dans la Bible. Fait rire. Hein? La technique de l'autruche. Il veut bien entendre. Il n'y a rien de pire dans la vie d'une personne que l'ignorance, et en particulier l'ignorance de la Bible. Il n'y a rien de pire. Il y a même des chrétiens qui sont ignorants de ce qui est écrit dans la Bible. L'esprit de pauvreté empêche les gens à comprendre les mystères de la parole de Dieu et les amène à entendre le sens pour justifier leur pauvreté. Ça, c'est pour les gens qui sont toujours en train de t'attaquer en te disant « Oui, la prospérité, ceci, etc. » biblique. Ils sont ignorants des mystères de la parole. C'est pour cela qu'ils attaquent l'Église. Ils ne connaissent pas la Bible. Et vous allez voir que le plus souvent, les gens qui vous attaquent, ce sont des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'ont jamais le temps. Ils sont sur des rêveries, des choses qu'ils ont entendues. Ils ont nourri une haine sur ça. Maintenant, les voilà en train de tirer sur l'église de Christ dès qu'on touche ce genre de sujet. Ce sont des pauvres. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui caractérise les pauvres. Ils sont méchants, aigris, et ils y haient les riches. Si tu es quelqu'un qui paraît bien, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui enseigne bien, quelqu'un qui a une belle dégaine comme moi, quelqu'un qui... tout ça. Le pauvre, il va te haïr. Il va dire, tu es qui toi? Il est méchant. Le riche, il est toujours gentil, aimable, il a le temps, il va se soucier de toi. Oh, je vous raconte une histoire. C'est une histoire. Il y avait un jeune homme qui était pauvre. Pauvre. Et il était très pauvre. Et ce jeune homme s'est dit, il me reste encore un tout petit peu de malice pour escroquer les gens, pour travailler, pour les escroquer. Donc le voilà qui décide de jouer à un jeu dans Libreville. Dès qu'il arrive en plein milieu des rues, il se couche par terre et joue le mort. Si vous l'avez déjà rencontré, ce jeune homme-là. Il aimait jouer les morts. Un jour, il dit, je vais aller à la sablière. Parce que moi aussi, je suis tombé aussi dans le panneau. Donc, il se met en plein milieu de la route. Puis, quand on s'arrête pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il aime y jouer le gars qui s'étouffait. Oh, j'ai oublié mon truc d'asthme. Tout ça. Vous avez déjà croisé ce jeune homme-là, non? Voilà, il s'est fait connaître dans Libreville. Hein? À la fin, plus personne ne s'arrête. Et moi, j'étais tombé dans le panneau aussi un jour, on s'était même battu. Et puis il aimait toujours dire au bout d'un moment, c'est quoi la solution pour te sortir de là? Il faut absolument que j'aille dans tel hôpital, faire mes injections, d'accord, ouais, c'est 30 000. Hein? Et puis toi, tu l'as, oh mais donnez vite 30 000, oh, tiens, et on est dans le menon. Et c'est là qu'il est escroqué. Dès que tu partais, il repartait faire le même coup ailleurs. Il était maudit, ce gars, c'est possible. Un jour, il a la sablière. Il a la sablière. Tu vois tous les gens qui passent. Oh, c'est encore lui. Les gens s'en vont. Puis, il y avait une femme riche. Elle s'arrête avec sa grosse Porsche Cayenne. Et vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de décéder, là, tout ça? Madame, laissez-moi. C'est un coup. Mais non, là, voilà. Oh, venez, monsieur, venez. Elle le fait monter dans la voiture, tout ça. Paniquée, vraiment. Oui, on va vous emmener à l'hôpital. Tenez, sors l'argent. Tenez. Allez vous soigner. Emmenez-le. Qu'elle est partie. Le gars dit, laissez-moi ici. Il part avec son argent. Et une autre fois, je le vois au même endroit, mais moi, je ne m'arrête pas. J'étais pas très loin et il était couché par terre. Et là, je regarde et je vois une voiture qui est en train d'arriver loin de lui. Cette fois-ci, je pense que le monsieur dans la voiture l'avait identifié. Et ça devait être aussi un pauvre qui avait marre de se faire arnaquer par ce type de personne. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas évité, hein? Il a accéléré. Tout d'un coup, le gars s'est levé. Il a fait, voilà, espèce de voleur, hein? Espèce de... Un pauvre, ils se sont reconnus. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Foyer à la pauvreté. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Quand on est ignorant des vérités bibliques, regarde ce que Pierre nous dit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres en parlant de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Quand les personnes ignorantes et mal affermies, hors de le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la Bible et qui font des médias leur principale arme pour venir tirer sur les hommes de Dieu et sur le corps de Christ en disant « Vous êtes dans le temps, c'est nous qui avons raison. » Ce sont des ignorants et qui tordent le sens de la parole de Dieu pour leur propre ruine, dit Paul. Alléluia. Notre symptôme, c'est la mendicité et la mauvaise habitude de toujours demander l'argent aux autres. Voici un signe fort de la pauvreté. Toujours à demander l'argent aux autres. L'esprit de pauvreté te pousse à ne pas vouloir travailler pour gagner ta vie et à toujours mendier pour de l'argent. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Proverbe 18 au verset 23. Le pauvre parle en suppliant. Le riche répond avec dureté. Non! Je ne te donne pas. C'est pour ça que le pauvre, il va toujours faire tout pour aller demander à d'autres pauvres. Parce que c'est que l'autre pauvre va donner. Comme ils compatissent ensemble dans leur pauvreté, le riche, il est au-dessus. Il dit non, va travailler. Alléluia. Ça te fait quelque chose un peu là, hein? Proverbe chapitre 30 au verset 15. Regarde ce que Salomon nous dit encore. La sanction a deux filles. Elle s'appelle Donne et Donne. Faut pas appeler tes enfants comme ça. Donne-moi, oh. Donne-moi. Donne-moi un peu, donne-moi. Ce sont des sangsues, ce type de pauvre-là. Toujours en train de te demander l'argent. Je t'ai dit que quand quelqu'un vient te demander l'argent, regarde-le bien. Regarde-le dans l'esprit. Ne regarde pas, non, regarde-le dans l'esprit. Regarde si ce n'est pas une porte ouverte, venir dévorer tes finances. Parce que si c'est quelqu'un qui a une malédiction sur lui, ça va rentrer dans ta vie. Tout d'un coup, tu vois que là, ton argent part aussi. Comme lui-là, les poches trouées, il va te contaminer cette maladie des poches trouées. Et peut-être tu... Quand quelqu'un me demande l'argent, je te regarde. Je regarde si tu es net. Il y a une bonne question qu'il faut poser aux gens qui viennent te demander l'argent. L'église. Quand quelqu'un vient te voir, les jeunes, les grands, n'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un vient vous demander l'argent à l'église, un jour après le culte, pose-lui, tu donnes ta dîme. Est-ce que tu donnes ta dîme et tes offrandes? Est-ce que tu peux jurer devant l'Éternel là, risque qu'il te frappe là tout de suite, tu donnes ta dîme? Rajoute bien le reste de la phrase là, au moins il aura peur. Et puis s'il avoue que, bon non, je ne donne pas trop ma dîme, ne lui donne pas ton argent. Ah oui. Ça veut dire qu'il il transporte avec lui une poisse. Il va te communiquer si tu lui donnes ton argent. Une fois, j'étais parti à une réunion business dans le cadre du travail. Et j'étais en réunion avec des opérateurs téléphoniques. Et là, je fais connaissance avec les gens qui sont là. On finit la réunion au bout de 2 heures. Quand on est en train de partir, je prends la voiture au parking et je m'en vais. Et je ne suis pas très très loin, j'arrive au feu rouge pas très très loin. Je vois une voiture qui vient se garer en vitesse devant moi. C'est l'un des messieurs qui était à la réunion. Il descend de sa voiture en courant. Monsieur Ondias, vraiment, que Dieu vous bénisse. Oh, Monsieur Ondias, vraiment, je suis dans la dèche, là, j'ai vraiment besoin d'argent, Monsieur Ondias. Vraiment, donnez-moi. Moi, j'étais là. Oui, c'est quoi? Vous avez besoin de combien? Même un petit 20-30 000 francs, Monsieur Ondias, tout ça, tout ça. Et puis derrière moi, les voitures vont à klaxonner. Bam! Partez vite là, le feu est vert. Et puis, dans la précipitation, bon, je lui ai donné. Mon frère, la dèche qui est venue après là. Toute la semaine, j'ai galéré. J'ai dit, mais ça, c'est quelle pauvreté qui est rentrée dans ma maison là. Je suis en manque. Tout d'un coup, tous mes payes ont été annulées. J'avais plus rien. En une semaine, j'étais fauché. J'ai dit, oh, et puis moi, dès que je vois ça arriver, ça m'a attristé. J'ai dit, mais pourquoi je suis fauché comme ça, Seigneur? J'ai péché ou quoi? Puis je suis rentré dans la prière et j'étais en train de prier. Et quand je prie, tout d'un coup j'ai un flash, boum, la scène avec le monsieur. J'ai dit, oh! C'est parce que je lui ai donné de l'argent. Et ça, tu te dis, oui, ce gars-là, c'était une porte ouverte. C'est un maudit qui est venu te prendre ton argent. J'ai dit, ya!
plus jamais ça.
Ce qui est marrant, parce que là, Dieu a vraiment le sens de l'humour, c'est que le jour même, je suis en train de rouler dans les brebis, je m'arrête, ma fenêtre est fermée, et puis là, je vois quelqu'un qui vient, co, s'il vous plaît, donnez-moi. J'ai dit, non, oh, putain, mon argent. T'aimes pas mon argent. 5. Un autre grand et fort symptôme de la pauvreté, c'est l'esprit de religion. L'esprit de religion, qu'est-ce que c'est? L'esprit de religion, c'est l'une des armes les plus puissantes utilisées par le diable pour maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté. L'esprit de religion et l'esprit de pauvreté sont de grands amis et souvent ils marchent ensemble. Si vous trouvez l'esprit de religion quelque part, très certainement la pauvreté, l'esprit de pauvreté est là aussi. Les gens qui sont très attachés à la religion sont des gens qui combattent beaucoup le message de la prospérité. Beaucoup. Parce que l'esprit de religion, dans les religions les plus connues, on enseigne que la prospérité n'est pas une bonne chose. Alléluia. L'esprit de religion aujourd'hui qui mine l'église de Christ, c'est un esprit qui véhicule le mensonge, qui dit que la prospérité est pour le monde et non pour les riches de ce monde. Et que les riches de ce monde iront tous en enfer juste parce qu'ils sont riches. Ils n'iront pas au ciel. La religion véhicule que les pauvres iront au ciel. Ils se basent sur beaucoup de versets dont ils tordent le sens. Le premier verset, 1 Timothée chapitre 6 au verset 6. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Paul précise bien l'amour de l'argent. Eux, ils disent juste l'argent est un mal. Et ça t'emmènera en enfer. Ils se basent sur ça pour prêcher la haine de l'argent. Le deuxième verset, un passage très puissant qu'ils utilisent, ils te prennent le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 20, je crois. Jésus-Christ raconte la parabole de Lazare et du riche. Ils te prennent cette parabole où le riche, qui était un riche mauvais, qui n'avait jamais donné à Lazare, Lazare meurt, parce que Lazare suppliait tout le temps à l'entrée. Et quand Lazare meurt, la Bible dit que Lazare va au ciel. D'accord? Le riche meurt ensuite et lui va en enfer. Et là, Jésus-Christ raconte l'histoire que le riche suppliait qui? Il suppliait qui? Non, il ne suppliait pas Lazare. Il suppliait Abraham. Abraham était en haut avec Lazare en disant, Abraham, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau pour que je me rafraîchisse. Et puis, va dire à mes frères. Et Abraham répond, si ils n'écoutent pas les prophètes, pas nous, c'est pas toi qui vas écouter, d'accord? Ok, d'accord. Alors Lazare, s'il te plaît, dis-lui, dis que vous avez vu cette histoire? Le riche était en enfer, le pauvre était au ciel, donc il ne faut pas vouloir être riche. Non, mais la question que je te pose, c'est que Lazare qui était pauvre était avec qui au ciel? Abraham. Abraham était pauvre. Non, faut, ils tordent. Et comme ils savent que tu n'es pas assez éclairé pour aller regarder là-bas, tu vas dire, non, c'est vrai, Lazare était pauvre, hein, donc c'est les pauvres qui vont au ciel et le riche. Non, Abraham était balèzement riche, mon ami. Et lui aussi est au ciel. Donc ces gens, ce sont des religieux. Ils connaissent la Bible, hein? Ils vont utiliser ça, ils vont la manipuler pour endormir les chrétiens. Tu les vois là sur YouTube, Internet, Facebook, et on vous endort. Et vous voilà en train de participer au péché d'autrui, en commençant à condamner les gens, etc. Parce que vous-même aussi, pauvre que vous êtes, vous ne connaissez pas la Bible, vous êtes ignorant. Et on vous endort comme ça. S'il y a bien quelqu'un qui connaît la Bible, c'est Satan. Ah, il connaît très bien la Bible. J'assure que même moi, je me demande si je pourrais un jour m'asseoir avec lui et parler de la Bible. Parce que moi, je n'ai que la trentaine d'années, lui, il a des siècles. Il a eu le temps de maîtriser cette histoire. L'esprit de religion, c'est pas bon. Et l'esprit de religion est associé à l'esprit de pauvreté. Il faut haïr la religion. Pas les religieux. L'être humain, il faut l'aimer. Mais la religion, le concept même de la religion, il ne faut pas aimer ça. Parce que Dieu n'a jamais créé la religion. La religion, c'est un ensemble de règles, de dogmes que les gens ont inventés pour soi-disant se rapprocher de Dieu. Christ, c'est Dieu lui-même qui vient vers les hommes. La religion, c'est pas bon. Quelles que soient les religions, quelles que soient, même la religion christianisme, soi-disant, entre guillemets, faire attention. La religion, c'est très dangereux, très, très dangereux. Alléluia. Donc, l'esprit de religion, il ment aux chrétiens que Dieu est fâché avec les riches et qu'il ne les aime pas, ce qui est complètement faux. 6. Un autre symptôme de la pauvreté, c'est le désir de toujours dépenser son argent et ne pas épargner. Toujours le désir d'aller faire les courses. Toujours. La consommation et l'envie de toujours dépenser est un signe fort de de la présence de l'esprit de pauvreté. Il faut fuir la consommation à tout prix. Pourquoi? Parce que la consommation derrière, la consommation masquée derrière tout ce qui est solde, crédit, consommation diverses et variées, tout ce qui est shopping incontrôlé, tout ça, c'est la pauvreté. Solde de début d'année, ou à moins 50%. Tu vas en train de courir. Oh! Le riche, il ne se précipite pas pour dépenser son argent. Le pauvre, il va aller acheter. Les riches, ils ont même eu des techniques pour attirer les pauvres et leur faire croire que c'est toujours moins cher. Au lieu, par exemple, de te dire que c'est 1000 francs, il va te dire que c'est 999 francs. Et toi, tu dis, c'est moins de 1000 francs, donc je prends. Tu n'as pas remarqué que, marketingement parlant, les prix sont toujours affichés comme ça? 999 francs, 9995 francs. Et tu vois là, en train de dire, comme c'est moins de 10 000, je prends. Et les 5 centimes, là, c'est quoi pour les céréales? Mais en fait, c'est pour jouer sur ton mental, en fait. Si tu vois les chiffres ronds, 10 000, 20 000, 30 000, c'est cher. Mais quand tu vois 9 999 francs, comme tu avais prévu de ne pas dépenser plus de 10 000, tu vas dépenser 9 999 francs. Et tu viens tout content, j'ai fait une bonne affaire. Le riche dit, idiot. Ah là là. Proverbe 17, au verset 16, regarde ce que Salomon nous dit. À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot? À se procurer la sagesse, mais il n'a pas de tête. Il n'est pas intelligent financièrement. Donc, il ne faut pas leur donner l'argent. C'est des pauvres. Alléluia.
Wow, il faut que j'avance l'heure.
C'est un autre symptôme de la pauvreté. C'est un fort sentiment de manque d'argent qui conduit au stress. Quand tu n'as pas d'argent, tu es stressé. Là, il faut identifier le problème. L'esprit de pauvreté te pousse à te faire une mauvaise image de toi-même basée sur ta situation financière. L'esprit de pauvreté crée en toi un sentiment de manque dans tous les domaines qui suscite en toi un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres. Ce stress, cette frustration-là va affecter ton mental et l'image que tu te fais de toi-même. Il va créer un sentiment de manque qui va susciter en toi la peur de manquer et qui peut créer un complexe de supériorité. Si tu es quelqu'un qui a de l'argent, car sache qu'il y a même des gens qui ont de l'argent qui sont frustrés et qui sont soumis sous l'influence de l'esprit de pauvreté. Je t'ai dit que la pauvreté, ce n'est pas de l'argent, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui, en apparence, sont riches. En fait, ils sont pauvres et vivent tout le temps dans la frustration de perdre un jour l'argent qu'ils ont en poche. Des vrais pixous. Proverbe, chapitre 18, au verset 11 à 12, il est écrit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Dans son imagination, il pense qu'il est invincible, blindé. Eh bien, c'est ce stress-là, cette imagination-là, qui l'amène à mettre sa sécurité, non en l'éternel, mais dans son argent. Alléluia. Tu me suis fait comme ça. Oui. Le sentiment de découragement et de faiblesse face aux défis de la vie. Et le riche, il est rempli d'assurance. Quand il est face aux problèmes, il dit c'est pas grave, on va y arriver. Même quand il rencontre des échecs, il se relève toujours et il continue. Le pauvre, il est tout le temps découragé, tout le temps pessimiste. Ça va, un peu. On cherche l'argent. Oh, la vie c'est dur, oh. Le Gabon, vraiment, tout ça. Découragé, tout le temps. Celui qui souffre de l'esprit de pauvreté pense qu'il n'est pas assez intelligent pour réussir et qu'il n'est pas capable de faire face aux exigences de l'argent. Celui qui souffre de l'esprit de pauvreté pense que le succès et les percées financières, ce n'est pas pour lui, c'est seulement pour les autres. Et qu'il n'est pas assez bien pour lui aussi expérimenter ça un jour. Quand on parle de succès, c'est possible, tout ça. Non, c'est les autres, moi je suis pauvre. Il a tout le temps un esprit défaitiste, pessimiste. Voit la vie en noir. Quand l'épreuve arrive, il est le premier à flancher. Que son état d'esprit est pauvre. C'est. Le riche, c'est un guerrier. Quand vous me voyez là, j'ai une mentalité de riche. J'ai pas une mentalité de pauvre. Ah, quand on dit problème, je dis solution, problème, solution. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Impossible. C'est pas un mot qu'on connaît chez nous. Okay. Chez nous, tout est possible. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime toutes les séries, tous les films de Mission Impossible avec Tom Cruise. J'aime trop ça. Ah ouais. Le gars, il est toujours dans des situations. Tu te dis, il va faire comment? Et il s'en sort toujours. Attention, ce n'est pas un chrétien acteur. Admire juste le concept, pas les hommes. Proverbe 24, au verset 10, dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » La Bible française courant dit « Si tu perds courage au jour du péril, ton courage, ben, il est bien faible. Hein? » Moi, je suis riche. Ah. 9. Un fort sentiment. Il provoque un fort sentiment que la prospérité est diabolique et que la richesse est malsaine. Pourquoi? Parce que, là je parle en tant que corps, que nous sommes une église, sous l'influence de l'esprit de pauvreté, elle rejettera toute forme de prospérité, même dans l'enseignement. D'accord? Cet esprit de pauvreté va créer chez les gens une satisfaction d'une vie de manque en croyant que c'est agréable et que ça glorifie le Seigneur d'être dans le manque. Ils vont te prendre le verset où Paul dit « Par mes souffrances, j'achève les souffrances de Christ. » C'est ce verset, non? Ils te prennent ça et puis ils disent « Oh, donc il faut souffrir pour achever les souffrances de Christ. » Non, ce que Christ a accompli à la croix, c'était complet, c'était fini, c'était accompli. C'est pour ça qu'elle a dit « Tout est accompli. » Paul est en train de parler d'une certaine manière. Donc, tu les vois maintenant, nous allons aller en pèlerinage à Lourdes. Et puis, nous voilà en train de marcher par terre, les genoux au sol. Nous achevons les souffrances de Christ. Ah! Vous les connaissez, cela, non? Ils vont prendre des fouets. J'ai péché, ils prennent le fouet. Chat, chat, ils se frappent. Chat, j'ai péché, Seigneur. Chat, chat. Le Seigneur, il regarde, il fait. Yem, agnam, yem, agnam. Les miennes vont dire agnam, yem, les fondis. Actez les âmes, c'est ça, non?
Ah,
une vie de manque. Et ils pensent qu'ils font plaisir à Dieu quand ils ont fauché. Hein? Tu ne peux pas t'élever au-dessus de l'enseignement que tu reçois. Tu ne peux pas. Parce que l'enseignement que tu reçois, tu vas croire ça. Tu vas t'imprégner de cet enseignement. Et quand les gens sont dans les églises où on leur enseigne que la prospérité, c'est diabolique, on fabrique des machines à combattre la prospérité. Ils sortent tous de leurs églises. Ouais, tous ces pasteurs, toutes ces églises-là qui parlent d'argent-là, on les hait.
Sans que même enseigne-moi là sur internet, on va me tirer dessus vraiment.
Tu ne peux pas voyager avec une lumière qui n'est pas en toi, et tu ne peux pas connaître la multiplication dans un domaine où tu ne célèbres pas le succès des autres. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que si un jour tu veux ça, apprends à célébrer les victoires, grâce et les faveurs que les autres ont. Bénis le Seigneur pour leur vie, bénis le Seigneur pour ce qu'ils vivent. Puis, désire aussi être comme eux. Ne les envie pas, ne les convoite pas. Désire, aspire à être comme eux. Tu vois quelqu'un qui est très prospère, dit Seigneur, j'aimerais bien être comme ça moi aussi. Pas, oh, c'est quoi c'est ça? C'est un chrétien peut être comme ça. Regarde-moi. Est-ce que les chrétiens ont le droit de rouler dans les grosses voitures? C'est quoi? Et parfois, ça m'énerve quand j'allume des chaînes de télévision comme Béni TV ou Lumière TV. Puis tu vois des débats bidons entre pasteurs. Où c'est là, est-ce que les chrétiens peuvent m'accouler dans les grosses voitures? Regarde les faux débats, quoi. Et puis je vois, alors nous sommes ici avec le pasteur de telle église. C'est le pasteur de telle église. Et la question du jour, c'est est-ce que les chrétiens peuvent rouler dans les grosses voitures? Et puis tu vois, le pasteur commence maintenant à faire le verbe. Alors, ça va, la richesse peut être prise. J'ai envie de dire, tu vois, un homme de Dieu. Ah, vraiment? Oh! Que les chrétiens peuvent être riches. Hein? Tu vois des hommes de Dieu farouches. Hein? Non! On ne peut pas être riche. Parce qu'on ne peut pas avoir d'association entre l'évangile et la richesse. Ah, tu as lu ça où? Tu as lu ça où? Et il te prend les versets parce que Jésus-Christ dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais est-ce qu'il a entendu dire que lui, il était pauvre? Oh. C'est incroyable ça! Alléluia. Romains chapitre 12 verset 15 nous dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. 10. Finir avec ça. Esprit de pauvreté crée en toi un fort désir de convoitise. Ouais. Une personne sous l'influence de l'esprit de pauvreté convoite les biens des autres, la voiture des autres, le petit ami des autres, le poste des autres, l'argent des autres. Toujours en train de convoiter les trucs des autres. Tant que tu ne sauras pas te réjouir des bénédictions des autres, tu ne seras pas délivré de l'esprit de pauvreté. Il faut apprendre à se réjouir. Quand tu vois les autres qui réussissent, qui ont des bonnes choses, il faut apprendre à te réjouir. Et il faut apprendre à aller leur dire, oh vraiment, Dieu t'a fait grâce, je suis heureux pour toi. D'habitude, tu me disais bonjour, et puis ce jour-là, je rentre à l'église avec une belle voiture, je garde, tu passes à côté de moi, tu me dis pas bonjour. Oh, mais c'est comment? que tu penses à tes chaussures trouées, que tu as galéré là quand tu as marché, et puis tu vois l'autre avec la voiture, tu commences à le haïr. C'est quelle manière de servir le Seigneur, ça, hein? Il éprouve le pauvre, il méprise envers ceux qui expérimentent de plus grandes bénédictions. Et tout le temps, il soupçonne le mal chez ceux qui ont de l'argent et qui veulent l'aider. Tout le temps. Je dis, pourquoi il veut m'aider, lui? Il veut quoi de moi, hein? Tu vois un monsieur à l'église, il compatit en voyant la fille de la dame qui n'arrive pas à aller à l'école. Tout ça. Et puis, il vient voir la maman en disant, maman, je vais payer les études de ta fille. Je veux de bénir le Seigneur. Il dit, il veut quoi avec ma fille? De quoi? Il veut juste aider. Tu vois? Parce qu'ils sont pauvres, ils sont toujours en train de soupçonner. Corinthiens chapitre 13 au verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Ah, est-ce que tu me suis? Si tu me suivais comme ça. Allez, on finit. On finit, après on va prier. Est-ce que les chants peuvent commencer déjà à se positionner? Comment est-ce que je brise cet esprit de pauvreté? Parce qu'il faut le briser. Comment est-ce que je brise l'esprit de pauvreté? Pour briser l'esprit de pauvreté, bien-aimé, premièrement, vous devez déjà prendre la décision de vous libérer de cet esprit et accepter la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Vous prenez la décision. Vous dites stop, je sors de là. Jésus-Christ a dit dans Jean 8 au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et David rajoute dans les psaumes 119 au verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation est claire. Beaucoup de gens combattent ce message parce qu'ils n'ont pas la révélation des mystères du royaume des cieux. La deuxième chose à faire, c'est de prier contre l'esprit de pauvreté pour arracher sa délivrance. On prie contre cet esprit-là. Psaume chapitre 20, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Psaume 116 au verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Quand tu vois que cet esprit te mine, cet esprit oppresse ta vie, cet esprit t'empêche de vivre paisiblement, il faut que tu te lèves et tu invoques le nom du Seigneur et tu pries contre cet esprit-là. Tu dis, Seigneur, je stoppe toute effusion dans mes finances maintenant. Je chasse de ma maison cet esprit-là. Je hais la pauvreté. 3. Tu honores le Seigneur avec tes prémices, avec tes dîmes et tes offrandes. Tu réactives les flots divins en recommençant à donner ta dîme. Et tous les endroits où tu priais, où on te disait qu'il ne faut pas donner la dîme, tu sors de là. On arrête de discuter et de débattre là. Sors de là-bas. Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et les gens qui viennent te baratiner, oh, ça c'est l'Ancien Testament, oublie-les. Car le Seigneur n'a pas donné une Bible à moitié, c'est toute la Bible à laquelle on croit. 4. Tu rejettes les traditions des hommes. Tout ce qui est tradition et qui combat ta prospérité, tu rejettes ça. Livre de Marc, au chapitre 7, au verset 10, la Bible dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son peuple, pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et en plus, vous faites beaucoup de choses semblables dans votre vie. Beaucoup de choses comme ça que vous faites, soit disant c'est pour la tradition. Oh, mais on peut être chrétien, mais en même temps être dans la tradition, non? Mais moi, ça ne m'oblige pas à... respecter la parole de Dieu à la lettre. Ne rien y ajouter, ne rien enlever. 5. Il faut relâcher les semences que vous avez dans les mains. Apprenez à lâcher. Arrêtez de rester accroché à l'argent comme ça. L'argent, ça part, ça revient. Matthieu 25, au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, dis-moi aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais l'autre, parce qu'il avait une mentalité de pauvre, celui qui en avait reçu que 1, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Parce qu'il était pauvre. Les autres, ils n'ont pas hésité, ils ont semé. Ils ont investi. Et ça leur a rapporté de l'argent. lui, pauvre, toujours accroché à son argent, il a eu la mauvaise attitude et il a été maudit. Pourquoi on a semé à relâcher quand vous êtes conduit par l'esprit? 6. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Car dans le royaume des cieux, si tu as besoin, donne. Ne retiens pas. Tu as besoin d'argent, donne de l'argent aux autres. Pas peur. Car c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Luc, chapitre 6, au verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Les gens qui sont riches dans le royaume, ce sont les gens qui donnent beaucoup. Donnez, car notre amour pour le Seigneur ne se limite pas à l'argent. Alléluia. 7. Apprends davantage au sujet de l'argent et augmente sans cesse tes connaissances sur le sujet pour ne pas rester ignorant. Proverbes chapitre 2 verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Salomon rajoute, Proverbe 8 au verset 10, recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent, la connaissance de préférence à l'or pur. Car moi, la sagesse, je vaux mieux que les perles. Aucun trésor n'a autant de valeur que moi, la sagesse. Alléluia. Et enfin, dépense ton argent intelligemment et fais attention à l'esprit de consommation. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 16, au verset 16, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais t'inviter maintenant à prier, simplement rendre grâce à Dieu. Simplement que tu dises au Seigneur que je te rends grâce parce que par la parole, tu ouvres mes yeux et tu me fais comprendre que je ne suis pas destiné à être pauvre dans ma vie. Et que toute forme de manque et de pauvreté dans ma vie n'est pas le bienvenu. Et si aujourd'hui j'en connais une, je déclare et je décrète que c'est temporaire. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Car certains d'entre vous, vous passez peut-être par des périodes difficiles. Mais sachez, et c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, sachez que c'est temporaire, c'est pas définitif. Car vous êtes appelé à aller plus loin, à voir plus grand, à opérer plus haut. Ce n'est pas définitif. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas du manque. Contentez-vous, mais ne prenez pas plaisir à rester dedans. Car quand une situation de manque se présente, commencez à réfléchir pour savoir comment vous allez sortir de là. Ici, c'est le trône de Dieu. C'est son église. Et là où il y a Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de louer le Seigneur avec joie et non avec stress. Avec paix et non avec crainte et doute. Élève avec moi la voix. Nous te bénissons, Père, pour ta parole, pour tout ce que tu es. Sois encore honoré, sois exalté pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies et certainement que tu rendras parfait. Ô Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, tu libères la faveur. Tu libères une faveur particulière sur ton peuple. Tu libères une faveur particulière sur les finances de ton peuple afin qu'il ne manque plus. Nous brisons l'esprit de pauvreté dans ton église. Nous brisons cet esprit et nous décrétons qu'il n'est plus le bienvenu dans cette église au nom de Jésus. Je libère l'onction, Seigneur, ô Dieu, de la connaissance, de la révélation de la parole, de la richesse, Seigneur, sur ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu multiplies ce qu'il a maintenant entre ses mains, Père, au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, une fraîche rosée. Libère, Seigneur, une fraîche rosée sur ton église, au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant de manière prophétique. Commence à décréter. Cesse de supplier et commence à décréter que cette saison est la saison où tu vas passer à une nouvelle dimension. C'est la saison où tu sors de la léthargie spirituelle et mentale et où tu rentres maintenant dans ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Toutes les possessions, tout ce qui est à toi, tu le possèdes. Parce que le Seigneur a déclaré que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Alors tu domines et tu possèdes ce qui est à toi. Sois fécond, multiplie-toi, remplis la terre, assujettis et domine. Parce que c'est à cela que tu es appelé au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus inquiet, ne pleure plus. Parce que ceux qui ont semé avec larmes le soir, le matin, ils récoltent avec joie. Et je déclare et je décrète une saison de récolte joyeuse à la maison du bâtisseur, au nom puissant de Jésus-Christ. Une fraîche rosée tombe sur nous au nom de Jésus. Fraîche rosée sur les couples, fraîche rosée sur les familles, fraîche rosée sur les étudiants, fraîche rosée sur les entrepreneurs, les investisseurs, fraîche rosée, car le Seigneur nous fait opérer dans une dimension de faveur financière exponentielle. Je le déclare et je le décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, cette onction sur ton peuple, afin que nous soyons un peuple sage, fort et influent pour changer cette nation et cette génération. Yes, yes, kata lebos te kaba, roma de lebos te kete lebon. Nous voulons, Seigneur,
qui nous apporte Sécheresse dans les familles, plus de sécheresse dans les finances, plus de sécheresse au nom de Jésus. Maka, maka taïebosa. Je déclare et je décrète de manière prophétique que tu ne connaîtras plus de sécheresse. Tu vas de prospérité en prospérité, de gloire en gloire. Tu prospères, que tes projets aboutissent, que ta maison soit finie d'être construite avant la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ, tes études sont payées et tu ne connaîtras plus de sécheresse pour payer tes études. Au nom de Jésus, plus de sécheresse pour ton entreprise, plus de sécheresse dans tes affaires, plus de sécheresse à la maison. Ton frigo sera toujours rempli de nourriture. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu et bénir le Seigneur? Yes.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.